Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le foot est-il malade de ses supporters? Depuis plusieurs semaines, les violences se multiplient en marge des matchs de Ligue 1. Hier soir encore, la commission de discipline va se prononcer des sanctions dans la soirée. 400 millions d'euros pour le grand âge. Jean Castex a présenté aujourd'hui un train de mesures pour favoriser le maintien des personnes âgées à domicile et améliorer leurs conditions de vie dans les EHPAD. Les partisans d'Éric Zemmour rêvent d'inscrire leur champion à la primaire de la droite. Marine Le Pen, qui baisse dans les sondages, estime qu'il n'a aucune chance de gagner la présidentielle. Vous l'entendrez. Christiane Taubira refuse d'appeler les Guyanais à se faire vacciné. Elle est pourtant une voix qui porte dans ce département d'outre-mer où le virus galope toujours. Vous entendrez la réaction d'un médecin en Guyane. La SNCF va lancer des Ouigo roses. Ce seront des trains classiques. Ils iront moins vite que les TGV, mais ils seront surtout beaucoup moins chers. Les détails dans ce journal. Le week-end approche et le temps devrait se maintenir demain au beau fixe, sauf que ça ne devrait pas durer, nous dira Marlène Duret. Après ce journal, Top à Wall Street avec Didier Hamo. Vous retrouverez à 22h20 l'invité écho ce soir, Jean-Charles Samuel Lian, fondateur d'Alan. C'est une start-up française qui se lance dans la santé mentale. Enfin, nous découvrirons ensemble les unes de vos quotidiens demain matin.
Europe 1.
La Ligue 1 nous offre de beaux matchs, c'est vrai, mais depuis la reprise du championnat, une partie de son public offre aussi un triste spectacle. Bien éloigné du sport, les violences entre supporters se répètent dans les stades et même à l'extérieur. De nouvelles sanctions sont attendues dans la soirée de la part de la commission de discipline de la Ligue de football. Entre les bagarres, les projectiles, les caillassages, les supporters montrent souvent leur plus mauvais visage. Jean-François Pérès, la Ligue va-t-elle prendre des décisions radicales?
Eh bien, en tout cas, elle y est poussée par le gouvernement, mais elle n'a pas de pouvoir de police ou de justice. Impossible, par exemple, pour la Ligue d'interdire des déplacements de supporters. C'est du ressort des préfectures. Alors, on s'oriente ce soir, dans un premier temps, vers la fermeture de ce qu'on appelle les parkages visiteurs. Un degré supplémentaire dans l'échelle des sanctions, qui n'ont peut-être pas été assez dissuasives dans le cas de Nice OM, reconnaît le député LREM Sacha Houlier. Il était l'invité d'Europe Midi.
Les sanctions, en tout cas, qui ont été prononcées pour Nice OM, elles n'ont pas été comprises. Il y avait été de ceux qui disaient que le match ne devait pas être rejoué, pour qu'on puisse bien comprendre que lorsque sont commis des actes d'une telle violence et d'une telle gravité, eh bien, on ne peut pas laisser faire et ne pas le donner à rejouer.
Alors, Angers-OM est allé à son terme, il ne sera pas rejoué, mais le club d'Angers pourrait être sanctionné pour défaut de sécurité. Les enquêtes prendront ensuite le relais pour déterminer les responsabilités des supporters. Une chose est sûre, les taux se resserrent. Le préfet de Haute-Corse a interdit le déplacement des supporters d'Ajaccio à Bastia. Même chose pour son homologue de la Loire en vue du derby Saint-Étienne-Lyon. Enfin, le club de Lens déconseille le voyage des supporters à Marseille dimanche. Le foot français est passionnant sur le terrain, mais malade en tribune.
Jean-François Pérès, chef du service des sports d'Europe 1. Jean Castex a présenté aujourd'hui une série de mesures en faveur du grand âge, avec au centre la question de l'autonomie des personnes âgées. Notre espérance de vie augmente et c'est l'une des grandes questions d'avenir. 400 millions d'euros ont été budgétés pour 2022. C'est un début pour améliorer les conditions de vie en EHPAD et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, Zoé Palier.
Oui, plus de la moitié de cette enveloppe concerne le secteur d'aide à domicile, en tension avec le vieillissement de la population et la demande qui explose. Alors parmi les mesures phares, il y a ce nouveau financement de l'État pour instaurer un tarif plancher. Les prestataires percevront au moins 22 euros par heure partout en France, alors qu'aujourd'hui le tarif varie en fonction des départements et que dans un cas sur deux, il est inférieur à 22 euros. L'annonce est donc accueillie avec soulagement par Jean-François Auclair, directeur d'O2, société de services à la personne.
Aujourd'hui, quand certains départements vous financent à 17 euros de l'heure, une fois que vous avez payé votre salarié les charges patronales, il n'y a plus rien. Dans ce contexte-là, ça va nous permettre de retrouver des marges légèrement supérieures et ces marges-là, on va les réinvestir, notamment sur la partie politique salariale. Ça va permettre d'attirer des salariés. Aujourd'hui, nous avons du mal à recruter. On doit investir pour former et pour attirer des jeunes dans nos métiers.
Le gouvernement veut aussi renforcer les effectifs dans les EHPAD pour améliorer la qualité de l'accueil, car plus de personnel veut dire plus de temps consacré à chaque résident. Objectif, créer 10 000 postes supplémentaires d'ici à 2026.
Zoé Palier. Et si Éric Zemmour participait à une primaire à droite? Ses soutiens croient à cette idée et bien que leur champion ne soit pas encore candidat, il s'affaire en coulisses pour l'inscrire à la possible primaire des Républicains. En pratique, Éric Zemmour aspirerait alors à devenir devenir le candidat de la droite et du centre, en compétition avec Valérie Pécresse ou Michel Barnier, par exemple. Alexandre Chauveau, est-ce que Éric Zemmour aurait sa place dans cette primaire ?
Eh bien, a priori, sur le papier, peu de choses l'en empêchent. Il faut dire qu'Éric Zemmour ne jure que par le général de Gaulle et revendique se retrouver dans le programme du RPR des années 90, qui tenait alors un discours fort sur l'immigration, discours toujours très populaire dans l'électorat des Républicains. Sur la forme, les choses semblent un peu plus compliquées. Gérard Larcher et Christian Jacob, deux ténors du parti, ont marqué leur opposition à une telle démarche en mettant en avant des différences de valeurs entre Éric Zemmour et les Républicains. Pour autant, l'essayiste, on l'a dit, séduit les électeurs de droite. Il n'a certes pas sa carte du parti, mais Xavier Bertrand et Valérie Pécresse non plus. Et réunir les 250 parrainages d'élus nécessaires pour participer ne devrait pas être insurmontable. Reste que cela serait une vraie surprise pour beaucoup, car Éric Zemmour a toujours vanté la tradition de la Ve République et la rencontre entre un homme et le peuple. Mais l'essayiste a pris l'habitude de jouer les troubles faits et l'absence de vrai leader à droite pourrait favoriser sa démarche. Le trublion Zemmour n'aura jamais aussi bien porté son nom.
Merci Alexandre. Dans les sondages, l'ascension d'Éric Zemmour à 10 ou 11% coïncide avec la chute de Marine Le Pen à moins de 20%. Si elle devait choisir entre les deux à la présidentielle, Marion Maréchal ne dira rien. Elle refuse d'indiquer si elle soutiendrait sa tante ou bien Éric Zemmour, pour qui elle a eu des mots bienveillants cet après-midi. En visite en Moselle, Marine Le Pen, elle, ne croit pas au succès d'une candidature Zemmour.
Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires, peut-être justement. Et cet éloignement avec le terrain politique lui probablement fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique. En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Et je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Parce qu'il est à 10% dans un sondage. Ce que je note, c'est qu'il y aura, il y a des variations aujourd'hui qui sont liées à une agitation médiatique, je le pense. J'ai vu beaucoup de candidats ainsi susciter un intérêt médiatique. Et puis, en réalité, lorsque l'intérêt médiatique s'essouffle, eh bien, ces candidats, les candidatures de ces personnalités elles-mêmes s'essoufflent.
Marine Le Pen avec Alexis de la Fontaine. Christiane Taubira ne lancera pas d'appel à la vaccination en Guyane. L'ancienne ministre née à Cayenne estime qu'elle n'a pas assez d'informations pour donner une consigne. Elle refuse de décrédibiliser sa parole tout en précisant qu'elle n'est pas anti-vaccin. En Guyane, cette position de Christiane Taubira étonne, elle surprend les médecins. La Guyane, où moins de 30% de la population est vaccinée, où l'épidémie galope. Au centre de vaccination de Cayenne, le docteur Guillaume Hichet ne comprend pas.
C'est un bel exemple de la situation à laquelle nous sommes confrontés au centre de vaccination, mais aussi ailleurs en Guyane sur les structures de soins, c'est-à-dire des politiques qui n'osent pas appeler à la vaccination franche et massive de la population. On sait très bien qu'il y a une hostilité de base de la population guyanaise dans le vaccin qui est proposé depuis maintenant 7-8 mois. À ce rythme-là, il nous faudra 4 ans pour avoir une immunité collective en Guyane qui soit suffisante pour nous protéger. Et quand un politique laisse entrevoir, on va dire, un début d'inquiétude, de défiance ou de méfiance dans la vaccination, évidemment que ça n'aide pas. Ce dont on a besoin, nous, c'est qu'il nous aide et qu'il nous appuie à prendre position sur la vaccination parce qu'on se sent réellement seul.
Le docteur Guillaume Hichet au centre de vaccination de Cayenne, en Guyane. Un adolescent de 16 ans mis en examen et écroué ce soir pour homicide volontaire après le meurtre d'Ibrahima, 16 ans également. Ce lycéen originaire de Bagnolet en Seine-Saint-Denis a été tué lundi soir d'un coup de couteau à la poitrine dans la commune voisine des Lilas. Un climat tendu aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. À la barre, le professeur Bertrand Lude, directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Le médecin légiste a livré le récit très dur de l'analyse des corps des 130 victimes des attentats. C'est alors que les familles ont demandé des réponses quant aux erreurs commises à l'époque. Gladys Laffitte.
Oui, pourtant, dès le début, le professeur Lude avait prévenu, il ne veut pas parler de l'identification des victimes à la charge des policiers et non des médecins légistes. Mais il n'a pas pu empêcher les questions précises et empreintes de douleur de nombreux avocats de partie civile. Pourquoi leur fille n'a été identifiée qu'au bout de plusieurs jours ? La confusion était telle que son père a encore eu l'espoir qu'elle était vivante, s'exclame une avocate. 8 mois pour envoyer le compte-rendu de l'examen du corps, est-ce que cela répond à la douleur des familles ? 5 minutes dans la salle de présentation, trouvez-vous cela supportable ? pour les proches. Tonne un autre avocat qui avait reçu 83 mails de questions de ses clients pour le professeur. « Si ça s'est passé comme ça, je suis confus », répond froidement l'intéressé. « Mais ça s'est passé comme ça », crie une femme dans la salle. Replié derrière son classeur rouge et ses fiches Bristol, le directeur de l'IML ne peut que décrire cliniquement les blessures terribles qui ont causé la mort des victimes. « Entre le monde qui est le vôtre et celui des familles, il y a un fossé extrêmement lourd », résume finalement dépité un avocat.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre 2015. 5 personnes en garde à vue à Paris dans l'enquête sur un projet d'attentat d'un groupuscule néo-nazi. Des membres de ce groupe sont soupçonnés d'avoir voulu préparer une action violente, en particulier contre une loge de la franc-maçonnerie. Dans ce dossier, 3 membres de ce groupe, baptisés Honneur et Nation, avaient déjà été mis en examen et écroués au début du mois de mai.
Europe News. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
C'est un sujet encore trop rarement abordé dans le débat politique. La prostitution des mineurs en France concernerait jusqu'à 10 000 enfants, selon un dernier rapport commandé par le gouvernement. Aucun milieu social n'est épargné. Virginie Riva, vous avez enquêté. Virginie, comment ce phénomène a-t-il pris autant d'ampleur ?
Alors, il a toujours existé, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont démultiplié ces possibilités de recrutement, de prise de rendez-vous via les messageries Snapchat ou Instagram, par exemple. Les proxénètes sont souvent très jeunes, parfois c'est le petit copain, avec des phénomènes d'emprise, notamment chez les jeunes filles en difficulté affective, comme celle recueillie à Lille auprès de l'association Solfa. Julie, 17 ans, a un parcours de vie compliqué, ballotté de foyer en famille. Elle raconte sa première fois.
Et en fait, quand je me suis retrouvée à faire l'acte, en fait, c'est... J'étais dégoûtée, j'avais les yeux qui pleuraient, j'étais vraiment pas à l'aise. Le client a dû le remarquer, mais lui s'en fichait en fait. C'est bête, hein. C'était pour une fellation, mais je savais même pas quand je devais m'arrêter. Je pensais que c'était 5 minutes et puis basta. Ben, je savais pas quoi dire. Je savais pas ce qu'il fallait dire, je savais même pas le tarif que je devais évoquer.
Lorsqu'on parle de prostitution de mineurs, Virginie, qui sont les clients ?
Alors c'est toute la difficulté, hein. Difficile de les intercepter aujourd'hui car la prostitution n'est plus forcément dans la rue, elle a lieu dans des Airbnb, dans des soirées. À Lille, dans l'association où je me suis rendue, les jeunes filles sont reçues en semi-autonomie, hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent continuer leurs activités et en parallèle tenter de se reconstruire. Elles parlent aussi librement de ces activités à leur psychologue Cécile Carissimo.
Elles expliquent que plus elles sont jeunes, plus les tarifs sont élevés. Mais au niveau des clients, il y a un seuil à ne pas dépasser. 15 ans, ça passe. En dessous de 15 ans, elles ne le disent pas forcément.
Alors 15 ans, je rappelle que c'est l'âge supposé du consentement sexuel depuis 2021, mais la prostitution des mineurs n'est évidemment pas autorisée. Tout le problème, c'est le cercle vicieux de l'argent surtout, et c'est même rapporté par les filles elles-mêmes, Julie et Jessie, 12 ans.
Quand ça travaille, tu fais 1200 euros par mois. Ouais. Nous, on est là. On se fait 200 euros par jour, on se fait 10 000 euros par mois.
Alors, c'est pas de l'argent, je dirais pas c'est de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide.
Voilà, de l'argent qui sert, dans leur cas, à acheter toutes sortes de drogues. Dans d'autres milieux, ça peut être pour un sac, une paire de chaussures. Le secrétaire d'État en charge de l'enfance va lancer mi-octobre un plan sur le sujet.
Enquête Virginie Riva pour Europe 1. Merci Virginie. Un Ouigo peut en cacher un autre. Ici, pas de danger. C'est même plutôt une bonne nouvelle puisque la SNCF va lancer des Ouigo roses, moins rapides, mais surtout beaucoup moins chers. Ce ne seront pas des TGV. Au printemps prochain, la SNCF va lancer cette nouvelle offre sur des trains et des lignes classiques. Ils iront moins vite, c'est sûr, mais à des prix très attractifs, Aurélien Fleurot.
Oui, c'est effectivement l'idée de cette nouvelle offre, des billets pas chers pour ceux qui souhaitent voyager en dernière minute, peu importe la date de réservation, un mois ou un jour avant le départ, vous paierez le même prix, soit entre 10 et 30 euros maximum selon les trajets, promet la SNCF. Ces trains corail rénovés vont arriver sur 2 lignes pour l'instant, Paris-Lyon et Paris-Nantes. 14 gares en tout seront desservies pour des trajets forcément plus longs qu'en TGV. Mais c'est surtout pour proposer de nouvelles options et concurrencer l'usage de la voiture, précise Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF.
On a aujourd'hui 700 000 personnes qui prennent les autoroutes tous les jours. C'est pour ça qu'on a ciblé Paris-Lyon et Paris-Nantes, parce que ce sont les deux marchés principaux. On souhaite pouvoir leur proposer une alternative écologique avec cet aspect très important de petits prix fixes jusqu'au dernier moment.
Et la SNCF a par ailleurs annoncé ce matin de futures destinations pour son offre classique de TGV low cost en direction de Brest, La Rochelle ou Perpignan à partir de l'année prochaine. Et puis aussi l'arrivée du service Ouigo Plus qui va permettre désormais de réserver sa place précisément dans le train et puis aussi de choisir différentes options de confort.
Merci Aurélien. Le gouvernement demande à la SNCF de revoir à la baisse ses ambitions pour la transformation de la gare du Nord à Paris. Dans l'idéal, ce serait autour de 50 millions d'euros de budget, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup moins cher que le projet initial abandonné par la SNCF, notamment parce qu'il avait dérapé à 1,5 milliard d'euros. Voyons le temps pour ce vendredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo pour demain, Marlène Duret, c'est encore une belle journée dans l'ensemble.
Oui, dans l'ensemble, oui, effectivement, on va quand même se réveiller sous des brouillards ou des nuages bas du côté de la Bretagne, en Normandie, Île-de-France, dans la quasi-totalité des pays de la Loire, les Hauts-de-France, les Ardennes et même dans le secteur de Reims et Thionville. Et à cette saison, la grisaille met un petit peu de temps à se désagréger. En plus, elle peut donner quelques bruines, ce sera le cas demain. Passé midi, là, le soleil reprendra le dessus, même si le ciel reste un petit peu variable entre la frontière belge et la Bretagne. Sur le reste du territoire, ciel dégagé dès l'aube, si on exclut les sempiternels brouillards, j'allais dire, et autres grisailles dans les vallées de l'Auvergne et du Val-de-Saône. Dans l'après-midi, on va commencer à sentir les premiers effets d'une goutte froide qui va circuler sur la péninsule ibérique. Vous savez, ce phénomène météo qui ne prend pas naissance dans la mer ni dans les terres, mais en altitude.
Et qui arrive pour le week-end, c'est ce que vous êtes en train de nous dire en fait.
Ben en fait, qui va favoriser une déstabilisation de la masse d'air avec des orages effectivement attendus par le sud-ouest. Et on va surveiller des pluies soutenues entre le Languedoc et la Côte d'Azur. Les températures, parlons-en, sous les nuages demain matin seront en hausse, c'est oui. Quant au maximal en journée, on prévoit 19 à Boulogne-sur-Mer, 21 à Laval, 22 à Amiens, 23 degrés à Paris, Dijon, au Sable d'Olonne et à Thonon-les-Bains, 24 à Bourges et Strasbourg. Il fera 25 dans le Lyonnais, à Limoges. Et puis, cette chaleur qui nous arrive donc du sud, dans le sud-ouest, hein, depuis l'Espagne et le Portugal, 28 à Bordeaux, Toulouse et Marseille pour demain.
Les chanceux. Merci Marlène, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Restez avec nous à suivre Top à Wall Street avec Didier Hamot. L'invité éco sera Jean-Charles Samuelian, fondateur d'Alan. C'est une start-up française qui se lance dans la santé mentale. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Il est 22h17 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui poursuit sur sa lancée d'hier et qui termine de nouveau en forte hausse ce soir.
Oui, ça finit bien. Le discours rassurant de la Réserve fédérale américaine hier propulse les indices boursiers plus hauts, qui se rassure aussi à l'écoute de la situation financière en Chine qui se calme. Le Dow Jones monte nettement d'1,48%, 34 765 points. Le Nasdaq plus 1,04%, 15 052 points. Tout le monde ce soir, avec des écarts plus ou moins sensibles. On a Microsoft plus 0,3%, Apple plus 0,7% à $146,83. Tesla reprend 0,2%, Amazon 1%, Cisco plus 2% à $56,70. Facebook, qui avait baissé hier, se reprend aussi, plus 0,8%. Il y a le pétrole qui se distingue aussi, qui poursuit sa remontée, là encore, plus 1,6%. On a un baril à plus de $73, le WTI. Ça donne des valeurs pétrolières en forte hausse. Exxon, plus 3,4% à $57. Et Chevron, plus 2,5% à $100 tout rond. L'euro aussi se reprend un petit peu, 1,1740 face au dollar.
La Bourse de Paris, Didier, a elle aussi aligné une troisième séance de hausse consécutive.
Oui, nette hausse, encore une fois, plus 0,98%. Du coup, le CAC 40 repasse les 6 702 points. Dans le prolongement des deux dernières séances, les valeurs exportatrices profitent des nouvelles financières plutôt rassurantes en provenance de Chine. Ça donne des valeurs de l'automobile qui poursuivent leur rebond. Valeo plus 8%, Faurecia plus 7% malgré l'ajustement de ses prévisions en raison de la pénurie de semi-conducteurs. On a les valeurs automobiles, les constructeurs, donc Renault plus 2,8% et Stellantis plus 1,2%. Et puis la vedette du jour, c'est Trigano, le fabricant de camping-cars qui remonte carrément de 10% à €182 après des résultats très convaincants.
L'exception du jour, le secteur médical qui n'a pas profité de ce mouvement de hausse.
C'est assez logique, oui. Le secteur de la santé au sens large, considéré comme défensif, retombe au rythme inverse de la remontée des indices boursiers. Donc ça donne Nicox qui perd par exemple 6%, AB Science moins 4%, Ose Immuno moins 2%, Medincell moins 1%, Genfit moins 1%, tout le secteur en baisse. Les autres places financières sont en hausse. Encore le DAX plus 0,8 à Francfort, plus 0,8 à Bruxelles, plus 0,7 à Madrid. Et donc le CAC 40 en progression de 0,98%, 6 702 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. Zoom ce soir sur Europe 1 sur la start-up française Alan, une des pépites françaises dans le secteur de la santé qui se développe sur la santé mentale. L'invité éco ce soir, Jean-Charles Samuelian, le fondateur d'Alan, répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Jean-Charles Samuelian.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes le cofondateur et le patron d'Alan. C'est quoi Alan ? C'est un service en ligne qui dit avoir réinventé l'assurance santé et ça commence en effet de plus en plus à fonctionner. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous venez de vous développer fortement sur un marché important, celui de la santé mentale. Pour cela, vous venez de racheter une entreprise aux États-Unis, une application qui s'appelle Jour. Vous le faites parce que, selon vous, la santé mentale, c'est un marché capital pour demain ?
Plus qu'un business, pour nous, la santé mentale, et je pense que tous les Français l'ont vécu, c'est un phénomène de société et un problème de société. C'est un parent pauvre, on en parle très peu, c'est tabou, c'est stigmatisé, et pourtant ça touche entre un tiers et la moitié des Français. C'est même deux tiers des Français qui se déclarent avoir des problèmes de sommeil et des troubles du sommeil. Et c'est encore plus canalisé après un an et demi de pandémie. Les chiffres sont en progression. Enfin, le nombre de personnes en anxiété a quasiment doublé. Et ça se passe encore plus qu'avant dans l'entreprise, parce qu'il y a de plus en plus une porosité avec les nouveaux modes de travail, etc., entre le pro et le perso. Donc
surtout que vous étiez, et pardonnez-moi de raconter cette histoire, mais c'est votre cofondateur qui le raconte lui-même. Vous étiez directement concerné, puisque Charles Gorintin, qui est votre cofondateur du côté d'Alan, a lui-même connu une dépression, justement, liée au travail.
Exactement. Dans son expérience avant de créer Alan, quand il était chez Instagram, et dans une carrière en flèche, il a vécu ce sentiment-là et il est passé par ça. Il a été, ça a été dur, il a été mal accompagné, il a réussi, grâce au stoïcisme, à en sortir. Et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de lancer Alan. Moi, je viens d'une famille de psychiatres aussi, mes deux parents sont psychiatres. Donc la santé mentale, c'est un sujet qui nous touchait tous les deux. Et quand on a vu cette demande qui venait vraiment de nos clients, avec Alan, notre assurance complémentaire santé, on couvre plus de 200 000 personnes, plus de 11 000 entreprises, donc on est vraiment dans les rouages des questions que se posent les dirigeants, les RH et les salariés. Et on a vu qu'il y avait un besoin énorme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Alan Mind, notre service de santé mentale pour les entreprises, en rachetant une entreprise américaine, en effet, Jour, pour qu'elle se transforme en Alan Mind. Et c'est assez beau parce que ça nous permet de...
Mais du coup, pour qu'on comprenne bien, parce que on l'entend, hein, on le voit au quotidien, on a tous quelqu'un qui est mal à cause de sa vie professionnelle. De façon concrète, quel service allez-vous apporter ?
En gros, Alan Mind, c'est trois piliers. Le premier pilier, c'est une application digitale, du coup, qui va m'aider à voir sur quel problème j'ai envie de travailler, sur quoi j'ai envie de m'améliorer. Faut être très positif, très empathique, avec des vidéos, des exercices de respiration, des thérapies digitales. Donc ça, c'est une app qui fait tomber les barrières, qui est très positive, qui a été déchargée plus de 2 millions de fois aux États-Unis, où plus de 90% des gens qui l'utilisent disent que ça réduit leur stress et leur anxiété. Donc c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, on donne accès à de la vidéo et bientôt du chat avec des psychologues qu'on a choisis, triés sur le volet, entraînés. Et donc ça permet d'avoir accès à un certain nombre de sessions qui permettent d'aller plus loin et d'être guidé. Et enfin, le troisième pilier, c'est des sessions de groupe au sein des entreprises, soit pour entraîner les managers, soit pour entraîner les salariés sur ces sujets de santé mentale. Et ça, ces trois piliers se répondent hyper bien. On fait tomber les barrières et on commence à aider grâce à l'application. Si on veut aller plus loin, on utilise la vidéoconsultation avec nos psychologues, avec un accès qui est ultra rapide. Et le troisième pilier, c'est on démystifie et on coach au sein de l'entreprise.
Alan, vous vous présentez comme le compagnon santé, 100% digital, assurance santé, mais avec cette idée de compagnon, je n'ai pas choisi le mot au hasard, et on le voit là avec l'acquisition que vous venez de faire. Vous voulez personnaliser les services de la santé et tout cela en ligne, c'est ça l'avenir d'Alan ?
L'avenir d'Alan, exactement, c'est d'être le compagnon, le partenaire, le seul point de contact qu'ont les entreprises et les individus pour les aider à naviguer leur santé de la manière la plus simple, la plus personnalisée possible, pour avoir pour la première fois l'impression que ce soit le système de santé qui se plie en quatre pour eux et pas eux qui doivent se plier en quatre pour s'adapter à un système qu'ils comprennent mal. Et c'est ça qu'on fait, et cette acquisition et ce lancement dans la santé mentale, c'est vraiment la continuité de cette mission. On a donc le pilier maintenant de l'assurance santé. Maintenant, nos membres qui sont déjà assurés, les entreprises, peuvent choisir de prendre Alan Mind en plus. Mais Alan Mind peut être aussi choisi par des entreprises qui n'ont pas encore Alan pour l'assurance santé.
Et si j'ai voulu aussi être en ligne avec vous ce soir, c'est que là, ces deux derniers soirs, à ce même micro, on était avec le patron de Sorare, qui a réalisé la plus grosse levée de fonds dans le monde de la French Tech, de l'histoire de la French Tech, et hier soir avec le patron de Miracle, qui lui aussi est en train de réaliser des performances totalement extraordinaires dans ce secteur de la French Tech. Vous en êtes un des acteurs majeurs, vous avez levé des fonds, là vous venez de faire votre toute première acquisition avec Jour. Comment vous expliquez ce dynamisme qui, de l'extérieur, paraît quand même impressionnant?
Je pense que c'est le résultat, un, d'entrepreneurs et d'équipes qui sont vraiment géniales. Quand on parle des fondateurs de Miracle ou de Nicolas chez Sorare, c'est vraiment des équipes qui sont fantastiques, qui ont beaucoup d'ambition. Deux, c'est des fondamentaux qui sont construits depuis plusieurs années. En fait, ça, c'est le résultat de 4, 5, 6 ans de travail, voire plus sur l'écosystème pour le rendre plus simple, plus attractif, faire que les talents ne partent plus aux États-Unis mais reviennent et travaillent ici. Et quand vous voyez les équipes dirigeantes, que ce soit chez, ou toutes les équipes en général, chez Alan, chez Sorare, chez Miracle, on fait revenir des talents d'outre-Atlantique, et ça, c'est formidable. Et montrer qu'on arrive à faire des boîtes à impact global en France sur des technologies de rupture. Donc, c'est vraiment très encourageant parce que le monde des technologies et des boîtes à forte croissance crée beaucoup d'emplois. Je crois que ça va être plus de 200 000 entre le Next 40 et le SB et le French Tech 120. Et c'est 200 000 de plus sur les prochaines années. Ça crée de l'emploi, ça crée de la différenciation en France, ça crée de la souveraineté. Je pense qu'il faut se réjouir.
Bien sûr, le seul problème, c'est quand on regarde les investisseurs, pourquoi on n'arrive toujours pas à avoir des acteurs français pour justement financer vos super développements de vos boîtes?
Honnêtement, je pense que ce n'est pas extrêmement grave. Ce serait bien et ça continue à émerger. Il y a le projet Tibi qui va faire qu'il y a de plus en plus de fonds. Il y a des fonds de plus en plus gros qui sont en train de se créer. Mais ce n'est pas très grave. Je pense que le plus important, c'est que ces boîtes-là arrivent à faire leurs introductions en bourse un jour, parce que si elles deviennent publiques, en France. Mmh. Et pour ça, il faut rendre le marché public français compétitif. Et si ça se passe, on aura des super boîtes qui se sont fait financer par des fonds français, des fonds étrangers, et qui s'introduiront en bourse et qui créeront beaucoup de valeur pour la France, l'Europe et le monde. Ça, c'est formidable. Donc, je me concentrerai plutôt là-dessus.
Eh bien, on va se concentrer là-dessus. Un grand merci, Jean-Charles Samelian. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le patron d'Alan. Et nous, on se retrouve lundi soir sur Europe 1 à 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h avec Elisabeth Assayag dans La France bouge. Vous recevrez Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué en charge des transports. Vous vous intéresserez aux transports de demain.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons ensemble les unes de la presse pour demain matin, vendredi. Face au Covid arrive le défi d'une vaccination planétaire, titre Le Figaro à sa une. Alors que la moitié de la planète sera bientôt vaccinée, seuls 2% des habitants des pays à faible revenu sont protégés. Ce qui veut dire à terme que la sortie de crise pourrait être compromise. Personne, en tout cas, n'a intérêt à ce que la crise sanitaire mondiale perdure, écrit Le Figaro, que son impact sur l'économie ne s'inscrive dans le temps. L'arrivée, et c'est l'espoir, de nouveaux vaccins en 2022, ainsi que la hausse de la production, notamment dans les pays du Sud, donne donc cette perspective de pouvoir vacciner rapidement la planète entière. La une de Libé est intéressante. Je vous conseille d'y jeter un œil demain en kiosque ou sur Internet. On voit un rouleau de papier toilette qui arrive à sa toute dernière feuille, siglé Brexit. Voilà, c'est la métaphore choisie par Libé pour les lendemains qui déchantent dans le cadre de ce Brexit. Pénurie de main-d'œuvre, chaîne logistique perturbée, produits manquants, départ de citoyens européens. Avec la fin progressive de la crise du Covid, eh bien, le Royaume-Uni commence à entrevoir concrètement les conséquences de sa sortie de l'Union européenne. Comment Joe Biden impose sa loi dans l'Indo-Pacifique? C'est le dossier de une de l'opinion. L'affaire des sous-marins australiens n'est que le symbole le plus visible. Washington exige désormais des pays de la région qu'ils choisissent leur camp entre les États-Unis et la Chine. La flambée de l'énergie, l'Europe sous le choc, c'est la une des échos. La hausse des prix du gaz et de l'électricité pousse les pays européens à réagir. Bruxelles est prêt à autoriser les États à prendre des mesures d'urgence. J'en profite pour vous donner les premières sanctions décidées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle ce soir après le match Angers-Marseille. Après les graves débordements qui sont intervenus donc en marge de cette rencontre, la commission de discipline de la Ligue de foot décide de mettre le dossier en instruction. Elle prononce deux mesures à titre conservatoire. Fermeture de la tribune de Coubertin du stade Raymond Coppa. Ça veut dire que la rencontre Angers-Metz programmée dimanche 3 octobre est concernée par cette mesure conservatoire. Et puis de l'autre côté, fermeture du parcage visiteur de l'Olympique de Marseille pour les matchs disputés à l'extérieur. Et là, cette fois, c'est la rencontre Lille-Olympique de Marseille, programmée le dimanche 3 octobre également, qui est concernée par cette mesure. Il est 22h30 sur Europe 1. On retrouve tout de suite, et avec le sourire, Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Satisfait par ces premières sanctions ?
Écoutez, non, mais ce n'est qu'un début. Je vous ai livré mon point de vue hier soir. Je pense qu'il faut que tout ça se règle à l'Assemblée, avec des lois bien drastiques, des lois qui tapent toute personne qui, dans une enceinte de sport, pénètre sur le sacré, hein, le terrain des sportifs, devant des familles et des enfants, doit être interdit pour un temps X de ces stades. Et je pense que ça en calmera plus d'un.
Il y a encore du chemin, dites-vous.
Mais il y a encore du chemin, parce que nous sommes le pays de... On râle, mais on ne fait pas grand-chose, en fait. Mais bon, on verra. En tout cas, ça n'est pas qu'à la Ligue de football de régler cela. En ce moment, il n'y a que la Ligue de football qui prenne des décisions. Donc je pense que mon avis est partagé par bon nombre d'amoureux du football. Voilà, on était presque dans un débat.
La parenthèse est refermée.
Voilà, et c'est la Libre Antenne qui commence. Donc je vous dis à tout à l'heure, à partir de 23h, pour votre flash à tout à l'heure.